des écoles. Louise Touret.
Ce soir, nous parlons du nouveau service national. Pourquoi la jeunesse devrait reprendre du service? Il fut difficile, il est encore difficile de se mettre d'accord, même au gouvernement, sur les contours de ce futur service, obligatoire ou non. Pourquoi faire? Sur quelle durée? Une commission y réfléchit actuellement pour le président de la République. Mais ce soir, nous allons nous poser plusieurs questions. De quoi relève ce désir qui traverse la société de remettre au goût du jour le service national? Comment passer de l'idée très politique de faire émerger un nouveau rituel, symbole républicain, à la concrétisation pratique d'un projet pour la jeunesse. Les débats actuels donc montrent que tout est discuté, âge des participants, encadrement, caractère obligatoire et même la durée de ce service, je l'ai dit. Nous prendrons le temps de nous arrêter sur chacun de ces points et surtout, puisque nous sommes bien dans Rue des Écoles, nous nous interrogerons sur la dimension éducative de ce moment, de ce service pour les jeunes qui seront concernés. Et comme chaque semaine, en fin d'émission, la belle leçon de choses de Sophie Bobert. C'est Marilyn Débiol qui se confie cette semaine à Sophie. Elle lui raconte les effets de sa vocation précoce d'écrivain sur sa scolarité. Une vocation qui lui valut d'être très très souvent punie. Rendez-vous à 17h52.
Il y a des jeunes que je rencontre très souvent dans les universités, dans les écoles, dans les missions locales, ils ont envie de s'engager, ils ne savent pas où aller. Donc là, ils sauront quoi faire. Et on leur demandera d'ailleurs de choisir eux-mêmes les causes dans lesquelles ils veulent s'engager. Puis il y a d'autres jeunes qui sont dans aucun circuit, ils n'ont même pas envie de s'engager. Et là, on va aller vers eux pour essayer de leur donner envie et qu'ensuite, ça les aide à aller plus loin. Je pense que c'est vraiment un des projets les plus structurants. Vous savez, on fait souvent des grands travaux, des grands chantiers, etc. Là, c'est de la patte humaine pour faire un grand chantier qui restera, qui se développera, 10% d'une classe d'âge, peut-être au-delà, quoi. Ça démarrera dans 2 mois à peu près, hein. On va foncer. Là, je vais voir les députés pour leur demander de l'inscrire rapidement à l'ordre du jour, hein. Je ne voudrais vraiment pas qu'on perde du temps. Il y a un grand espoir, ça fait 3 ans que ça traîne, et donc on va essayer de démarrer dès début de l'année 2010.
Alors ne vous détrompez pas, cet extrait d'interview de Martin Hirsch n'a rien d'actuel. En fait, elle date du 28 octobre 2009. À l'époque, le haut-commissaire à la jeunesse et aux solidarités active, donc plaider pour ce futur service civique héritier du service civil dont on parle en gros depuis 2005. Cette année, ce sera donc les 8 ans du service civique et une grande réflexion sur un nouveau service à caractère national, un service dont on va essayer de comprendre en quoi il pourrait consister. L'armée pourrait y jouer un rôle. C'est ce que montre par exemple le fait que le général de brigade Daniel Menawine, qui fut chef d'état-major au Mali, préside aux travaux du groupe sur le service national universel. C'est bien le nom officiel. Rapport qui sera rendu en avril. Le président de la République a également déclaré vouloir faire de ce service quelque chose qui ouvre à la chose militaire. Je cite Emmanuel Macron. C'est peut-être cette chose militaire qui explique votre présence ici, Vincent Desportes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes général des armées, professeur des universités associé à Sciences Po. Vous êtes docteur en histoire, mais je ne vais pas citer tous vos diplômes. Et avec vous, on va aussi s'interroger sur la compétence de l'armée à non seulement encadrer des jeunes, mais à les éduquer. Monique Dagneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste des médias et de la culture des jeunes et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. On mettra évidemment les références en ligne sur le site de France Culture. Marie Trélucane, bonjour.
Bonjour.
J'hésite toujours un peu entre bonjour et bonsoir. Vous êtes présidente, cofondatrice d'Unicité, une association créée en 1995 pour proposer aux jeunes de s'engager en faveur de l'intérêt général. Et c'est un peu cette initiative, c'est même tout à fait cette initiative qui est à l'origine du service civique. Est-ce qu'en écoutant Martin Hirsch parler, ça vous a rappelé non seulement des souvenirs, mais ça vous montre aussi, comme peut-être ça me le montre à moi, qu'on est toujours un peu dans le même débat?
Oui, puis je remontre, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, c'est un bon souvenir, voilà, 2010.
Et ça me rappelait même la création d'Unicité en 95. Je sortais à peine de mes études moi-même et j'avais déjà cette conviction. Il n'y avait pas encore la nostalgie du service national puisque la conscription a été suspendue techniquement en 96. Donc c'était juste avant. Une bande de jeunes qui, en découvrant le service civil aux États-Unis, se sont dit, mais en France, il faudrait, on est à rue des écoles, donc il faudrait compléter notre éducation formelle d'un temps d'éducation non formelle, où les jeunes pourraient donner du temps à la société et se mélanger entre jeunes d'origines différentes. Donc ça va vous faire écho aux propos du président de la République actuel sur le service national universel. Mais c'est vrai que quand je l'entends, je me dis, j'y crois effectivement beaucoup depuis 20 ans, au fait qu'il faudrait que dans le parcours éducatif de tous les jeunes, il y ait un temps de vie consacré à faire des choses pour les autres, avec les autres, et avec les autres dans leur diversité et unicité. À vrai dire, concrètement, sur le terrain, c'est ça, c'est des jeunes de 16 à 25 ans, bac moins 5, bac plus 5, des jeunes de quartiers prioritaires, de centre-ville qu'on mélange pendant une année scolaire pour faire des choses pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap.
Qu'est-ce qui est éducatif ? Le fait de se mélanger, le fait de s'engager, le fait de rendre service à la collectivité ? Marie-Thérèse Lucane.
De mon expérience, donc à Unicité en tant que telle, hein, le service civique aujourd'hui c'est plus de 200 000 jeunes, Unicité seulement c'est à peu près 20 000 jeunes, donc on va dire c'est 10% de cette masse-là. Moi, ce que j'ai pu observer, on l'a analysé avec des travaux d'autres sociologues qui ont analysé les cohortes d'Unicité pour voir ce que ça amène aux jeunes et ce qu'ils deviennent derrière aussi. Ce que ça a éminemment d'éducatif, je pense que c'est l'expérience d'utilité sociale, le fait de se rendre utile pour d'autres. Ça génère, après c'est ça plus tout le reste, c'est 8 mois d'expérience qu'on peut valoriser sur un CV, c'est dans le cadre collectif, puisqu'Unicité, nous on prône le service civique collectif, c'est aussi l'apprentissage du travail d'équipe, donc tout ce qu'on a pu voir dans les études qui ont été menées, c'est le développement de ce qu'on appelle les compétences transversales, donc ces compétences qu'on appelle de nos voeux parce qu'elles correspondent aussi à des besoins sur le marché de l'emploi, hein. La capacité à travailler en équipe, aller au bout d'un engagement, à monter un projet, à s'adapter à des environnements différents, la confiance en soi, ça aussi, ça c'est plus un, pour moi quand je dis si j'ai un truc à retenir de ce que ça apporte aux jeunes et notamment à des jeunes qui ont été en échec scolaire parfois et qui donc une estime d'eux-mêmes très basse parce qu'ils ont échoué, ils ont l'impression que c'est foutu, c'est que de se rendre utile à la société et d'avoir un merci de la société qui leur dit merci de nous avoir aidés, quoi. C'est des personnes âgées, des personnes pour la première fois de leur vie, ils ont l'impression d'exister, d'être utile pour certains. Et ça, je pense que c'est éminemment formateur parce que ça apprend à regagner confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance à la société et c'est ça qui fait qu'ils rebondissent derrière. 82% chez nous des jeunes à la sortie, 6 mois après, sont en emploi ou en formation, ce qui n'est pas anodin alors que ce n'est pas le but à l'origine.
Oui, mais on va revenir sur cette notion de travail et de compétences professionnelles. Elle est importante, elle est également discutée. Monique Dagneau, et je reviens à une question initiale que j'ai posée dès l'introduction de cette émission, sur ce besoin qu'auraient les jeunes de s'engager, ou plutôt ce qui est ressenti par la société comme une nécessité pour les jeunes, c'est-à-dire que les adultes, les vieux, entre guillemets, pensent que les jeunes doivent s'engager. Qu'est-ce que ça dit de notre société ?
Alors en fait, les jeunes, dont la plupart, ont envie de s'engager, de participer à des activités de bénévolat. Et d'ailleurs, quand on regarde des études, on voit qu'ils sont de plus en plus engagés dans des associations ou dans le bénévolat. Et de façon plus générale, vous prenez les 18-20 ans, ils ont envie que leur vie ait un sens. Et l'engagement peut donner un sens à leur parcours de vie. Cela dit, c'est vrai qu'un projet d'un service national universel, c'est-à-dire qui touche tout le monde, ça a quelque chose de fou, même insensé, parce que ça suppose quand même la mise en œuvre de moyens. Il faut vraiment réfléchir qui va l'encadrer, quel va être le contenu.
Oui, on parle de 600 à 800 000 jeunes par an.
Tout à fait. Donc, je dirais que dans un premier temps, c'est un projet fou, mais qui mérite d'être examiné et approfondi. Et je serais tout à fait d'accord avec madame pour dire qu'il y a beaucoup d'arguments pour se lancer dans une telle opération. Le premier argument, d'abord, c'est que la plupart des jeunes, le modèle éducatif dominant en France, et personne n'a envie de revenir là-dessus, est quand même très individualiste. Et donc, dans ce mode-là, on s'intéresse à la particularité de l'enfant, on l'encourage à développer son identité, on l'accompagne. pour une partie des jeunes, disons, le lien avec le collectif et le fait que ce soit une société, une nation qui donne les moyens juridiques, sociaux et économiques pour se construire dans sa particularité, qui donne des droits, évidemment, beaucoup de droits. Ce lien n'est pas toujours très clair. Et donc, le service civique aurait cette vertu de remettre aussi le doigt sur quelque chose qui est le lien entre l'individu, ses droits et le collectif.
Une grande différence avec l'école et l'éducation qui est un milieu collectif à fin individuelle.
Voilà. Bon, on va dire comme ça.
La
deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les jeunes vivent de plus en plus dans des univers ségrégés. L'école, alors surtout à partir du secondaire, où donc l'école, distribue les gens dans des filières, où les établissements scolaires sont assez de plus en plus ségrégés, où les jeunes vivent dans ces bulles sociales et culturelles que permettent les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, il y a énormément de critiques à cette façon de cette ségrégation qui s'est plutôt resserrée au cours des dernières années, alors que simultanément, les jeunes ont envie d'engagement, vivent dans un univers plutôt mondialisé, d'ouverture culturelle. Mais dans leur vie concrète, il y a plutôt une tendance à un resserrement dans des bulles sociales et culturelles. Bon, donc ça, c'est tout ce qui concerne la mixité sociale, l'encouragement, l'expérience de la mixité sociale, c'est évidemment, c'est une vertu formidable pour une société.
Est-ce que ça ne marque pas aussi une certaine forme d'échec des autres institutions, comme l'école, l'enseignement supérieur aussi, il y a des programmes de mixité sociale à Sciences Po, par exemple, l'échec global de la société à assurer une forme de mixité dans l'espace public, et on se dit, on n'a qu'à demander aux jeunes de faire ce qu'on ne fait pas.
Oui, mais justement, ce serait une solution pour favoriser la mixité sociale qui n'est pas très présente. Et puis alors, il y a vraiment aussi ce dont vous parliez, c'est-à-dire que quand vous alliez par exemple dans des missions locales du ministère du Travail, vous voyez qu'il y a même une partie des jeunes qui sont invisibles quasiment, qui sont en échec, ont très grandes difficultés scolaires, qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, qui ont aucune confiance en eux-mêmes. Je vous assure que ce type d'enquête mérite d'être effectuée. Moi, comme j'ai fait pas mal d'enquêtes dans ces univers-là, je pense qu'effectivement, donner à l'ensemble des jeunes, et à ceux-là en particulier, l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire, de s'ouvrir aux autres, d'être en contact avec des autres, d'avoir d'autres modèles de comportement peut-être que dans leur propre milieu. Eh bien, au total, je pense qu'un service national, avec évidemment une dimension civique, serait un bienfait pour l'ensemble de la société et d'une classe
d'âge. Parce qu'on appellerait tous les jeunes.
Alors, si j'ai bien compris, il y a deux voies. C'est-à-dire, il y a eu l'idée d'étendre au maximum le service civique tel qu'il existe auparavant. Et puis, il y a l'idée, qui est peut-être celle aujourd'hui préconisée, d'un service national, parce qu'on parle d'un service à vocation universelle, donc j'imagine que c'est pour tout le monde.
Mais c'est encore discuté.
C'est bien sûr discuté. Et alors, mais c'est vrai que pour faire venir une partie des jeunes, c'est sans doute difficile, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont complètement invisibles et qui sont très, enfermés dans leur monde familial, leur quartier, et qui n'en sortent pas, ou qui ont peu d'opportunités d'en sortir. Donc il faut pouvoir leur tendre la main, et ce serait l'avantage d'une mesure plus générale.
Et c'est un peu une des vertus dont on se souvient à propos, alors c'est peut-être une reconstruction un petit peu flatteuse pour le service militaire, mais voilà, cette histoire de mélanger les groupes sociaux et puis de permettre à une certaine jeunesse, oubliée, de s'intégrer dans la société, un problème qui est peut-être encore plus brûlant aujourd'hui quand on sait que les jeunes les moins formés ont un destin social déjà fortement compromis, en tout cas un avenir professionnel compromis très 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 jeune, et ça c'est très très prédictif pour la suite des événements. Vincent Desportes, sur cet ancien service militaire.
Alors, je crois que tout ce qui a été dit est vrai. Il y a des besoins qui sont absolument évidents. De collectif, d'éducation, tout ça est parfaitement clair. Le problème est de savoir si on a les moyens de le faire de la façon dont le projet est présenté. Le besoin existe. Maintenant, c'est le moyen qu'il faut trouver. Donc, je reviens sur le service national. Ne nous trompons pas. Le service national militaire, tel qu'il a existé pendant presque un siècle, était à vocation militaire. Et il avait un effet social ou socialisant, je dirais, par hasard, pas par hasard. C'était comme ça. Ça n'était pas le but. Et c'était bien un moment où la nation rendait, enfin les jeunes, là, les citoyens rendaient service, un service de défense à la nation. Et là, on est dans une position complètement différente, c'est-à-dire que il serait militaire éventuellement un peu par hasard, il aurait d'abord un rôle social et un rôle éducatif. Et là, ce serait la nation qui se mettrait au service de la jeunesse. Donc, on est dans des choses qui sont, je dirais, orthogonales. On n'est pas du tout dans le même projet. Alors, il est vrai qu'il y a un vieux fantasme du service militaire. Et les militaires qu'on a longtemps honnis, tout d'un coup, se trouvent parés de toutes les vertus, parce qu'au fond, on ne connaît pas leurs vertus.
Vous le ressentez en tant que militaire, c'est un fantasme qui traverse la société ?
Bien sûr. Parce que les gens qui disent ça, ils ont fait leur service militaire il y a 20 ans, 30 ans, ils se rappellent, c'était leur jeunesse, ils ont fait des trucs super, etc. Ils en ont gardé les bons souvenirs.
Pas tous, hein.
Comment ?
Peut-être pas tous.
Ceux qui l'ont fait de bon cœur, ceux qui ont cherché les responsabilités, on garde tous un excellent souvenir. Les planqués en gardent un mauvais souvenir, les choses sont claires, parce qu'ils ont eu le sentiment de perdre un an et de ne pas rentrer justement dans cette machine à créer du social, à créer d'interconnexion. Mais tous ceux qui l'ont fait vraiment, on a gardé un bon souvenir, très sûrement.
Et donc, concernant la compétence éducative de l'armée, parce que je crois que c'est un des sous-entendus, et je vous l'avais posé, mais c'est vrai que j'avais posé plusieurs questions, au début de mon intervention concernant Vincent Desportes, une compétence de l'armée à encadrer une jeunesse qui peut-être ne trouve pas sa place dans la société.
Eh bien, c'est ce qui fait peur aux armées. Parce que massivement, les armées ont cette compétence et elles craignent que cette mission leur soit confiée parce qu'ils ont...
Alors, attendez, vous avez peur de devoir assurer une compétence que vous dites avoir. Expliquez-moi.
Je vous explique. Le problème, c'est le coût d'une telle mesure par rapport à la vocation principale des armées. Si les armées finissaient par devoir porter, ce qu'à Dieu ne plaise, l'essentiel de cette tâche, alors elles sont incapables de porter ce fardeau et elles ne seraient plus capables de remplir leur mission. On a encore vu il y a deux jours au Burkina Faso que les militaires ont des missions à remplir qui sont des missions de défense. Et donc la crainte, c'est que on a parlé de 600 000 à 800 000 jeunes à encadrer. La seule organisation capable de le faire, qui l'a déjà fait, ce sont les armées. Et donc, il y a effectivement une crainte que les armées se voient confier cette mission et ne soient plus capables de remplir leur mission essentielle, qui est une mission de défense. Donc, évidemment, il y a un avantage dans cette affaire-là. Il y a des attentes de socialisation, de mixité, etc. Mais si ça se paye par la dégradation profonde des armées, dont vos auditeurs doivent savoir qu'aujourd'hui, elles sont dans un état de délabrement incroyable, après le dernier quinquennat, qui a laissé les armées sur les genoux, hein, on connaît la crise du général de Villiers, si en plus elles devaient porter ça, eh bien
donc
la France serait privée
yeux,
de défense.
Donc à vos yeux, Vincent Desportes, l'armée est donc trop pauvre. J'aimerais que vous me redonniez, pour assurer ce service militaire, ce service, pardon, national et son encadrement, j'aimerais que vous me donniez un chiffre dont on avait parlé, que vous aviez évoqué dans une conversation de préparation avec moi. C'est quoi l'encadrement optimal des jeunes dans l'armée ? Combien d'encadrants pour combien de jeunes ?
D'accord. On reviendra un peu sur la dimension éducative de l'armée, parce que finalement, on n'a pas traité le sujet. Alors, les choses sont simples. Nous savons, parce que nous avons pratiqué ce métier pendant des décennies, que l'encadrement de ces jeunes exige un cadre au minimum pour 4 jeunes. Ce qui fait que si vous admettez que vous recrutez par an, enfin vous incorporez 600 000 à 800 000, il vous faut entre 150 000 et 200 000 cadres, ce qui est le double des cadres de l'armée française d'aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, on va pas tous les prendre ensemble, mais quand même on les prendra massivement en été parce que 70% de ces jeunes sont en train de faire des études et il faudra bien plutôt les prendre en été, donc on aura un pic. Mais admettons qu'on en prenne 10% par mois, eh bien, ça va faire 60 000 à 70 000. Et donc, il faudra entre 15 et 20 000 cadres, c'est-à-dire un quart des cadres de l'armée française, qui est aujourd'hui la moins encadrée des armées européennes, mais la plus engagée sur le terrain des armées européennes. Donc, en résumé, le problème de ce projet, c'est qu'il est beau, mais qu'il va se heurter extrêmement vite à des problèmes de faisabilité. Là, on a parlé de problèmes d'encadrement, mais il y a des problèmes techniques très, très importants. Le problème du logement, par exemple. On ne peut pas loger ces 600 000 à 700 000 jeunes, même si on les coupe en morceaux. Et plus que ça, par exemple, mais on ne peut pas, il faut faire des visites d'incorporation. Les visites d'incorporation, même avant que l'État prenne les responsabilités de ces jeunes, admettons qu'on en prenne 60 000 par an, le calcul, si vous estimez que si un médecin fait de l'abattage, il peut en voir 50 par jour, il faudrait 1000 journées de médecins pour le faire. Et donc, les armées n'ont absolument pas cette masse de médecins pour le faire, ni les hôpitaux dont on connaît également l'état un peu déplorable aujourd'hui. Donc on voit que c'est un très beau projet, mais qui doit être aménagé pour qu'il soit réalisable, au moins en partie.
État déplorable des hôpitaux, faute de moyens.
Exactement.
Pour
l'armée.
Je vous fais préciser votre pensée, Marie Trélucane, sur à la fois cette dimension d'encadrement et cette dimension de travail. On a entendu cette semaine que les jeunes en études de santé allaient être appelés justement dans les écoles, on est arrivé des écoles, dans les établissements scolaires pour des missions de prévention. C'est une forme, là aussi, de service rendu à la nation par la jeunesse, avec une dimension quand même professionnalisante, mais aussi de travail. Est-ce que c'est le rôle de la jeunesse que de donner de sa force de travail en s'engageant de manière aussi bénévole?
On part un peu dans tous les sens, mais c'est normal parce que ce projet est quand même pas encore complètement cadré. On parlait de militaire il y a quelques mois. Maintenant, on a bien entendu qu'on migre vers du vocable plus civique. On parlait d'obligatoire, on parle d'universel. On ne sait plus exactement de quoi on parle. Donc, je vais juste réagir à chaud sur ce que j'ai entendu. Je ne crois pas du tout à l'impact éducatif d'une période intensive d'un mois, que ce soit militaire ou pas militaire. J'y crois pas du tout. Nous, on a expérimenté des choses sur un mois, sur trois mois, sur six mois. Donc, déjà, pour avoir un impact, si on met de l'argent dans quelque chose, il faut quand même que ça serve à quelque chose, si c'est qu'on veut que les jeunes en retiennent quelque chose,
qui retire. Voilà.
Donc je pense, moi, que ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut mobiliser les jeunes sur des causes, même non militaires, donc des causes citoyennes, civiques, et ça me permet de répondre à votre question aussi,
c'est
le rôle de tous les citoyens de répondre à l'ensemble de nos besoins. On ne peut pas dire, voilà, il y a les services publics qui doivent répondre à tout, puis les autres, les citoyens. Donc pour moi, le rôle de tout citoyen, ça fait partie du rôle du citoyen que d'avoir son petit bout de contribution à la résolution des problèmes sociaux et environnementaux. Alors, on a tous un rôle à jouer. Donc, moi, je pense que oui, on a tous un rôle à jouer, et les jeunes parmi les autres. Donc, je répondrai oui à votre question, mais je reviens à mon propos sur le fait que si le projet du service national universel, et je crois, en entendant le président de la République, que c'est aussi ça le projet, c'est de mobiliser les jeunes au service des causes qui aideront à avancer notre pays, c'est aussi le but du service civique. C'est pour ça qu'on l'a créé. Il faut une durée minimal pour qu'ils puissent mener des missions utiles, que ce soit dans les hôpitaux. Bah, 6 mois. Ah, bah, ça, je l'ai déjà dit. Pour moi, en dessous de 6 mois, ça sert à rien.
Déjà,
on est plutôt à 9, 12 mois.
Général,
je pense que j'irais même à 7, 8, 10 mois.
Oui,
on l'a bien ressenti. Et donc, c'est une grande.
Mais Emmanuel
difficulté.
Macron parle de 3 à 6 mois pour le moment.
Il parle de 3 à 6 mois. Alors, donc, il va falloir multiplier le nombre de cas, etc. C'est pour ça que c'est là, on est dans des impossibilités.
Mais il est ouvert. Et je crois que là, le chantier est ouvert. Donc, là, comme le chantier est ouvert, on peut encore contribuer en apportant une expérience de terrain.
Bien
dans
sûr.
Le militaire, je ne sais pas, mais j'ai cru entendre aussi que pour que quelqu'un puisse avoir un rôle, même militaire, il faut au moins qu'il ait 6 mois de formation, donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit là au moins 12 mois, sinon je ne vois pas
bien
l'intérêt. Dans le civil, c'est vrai que dans les services publics, dans les associations, pour qu'un jeune arrive, soit un peu intégré, soit un peu formé et fasse une mission vraiment utile, ça prend quand même un peu de temps. On est sur des taux d'encadrement, nous, par exemple, en ayant de la mixité, donc en ayant du bac moins, du bac plus, des jeunes vraiment dans la mixité, on est à 1 pour 10, à 1 pour 20 et quelques quand on carbure. Donc effectivement, c'est un peu moins coûteux, entre guillemets, peut-être, que dans l'encadrement militaire. Mais ça n'empêche que ça demande évidemment un encadrement. Moi, j'aurais plus... Donc en tout cas, mon propos, c'est si on veut mobiliser les jeunes sur des missions utiles, c'est vrai qu'il faut du temps, donc au moins 6 mois. Et si on veut un impact éducatif, soit il faut étaler sur le parcours. C'est un peu, je crois, ce qu'ont voulu dire les députés qui ont rendu un rapport là sur le projet de service national. Une autre option, voilà, c'est de dire ça se travaille à travers les années, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Donc l'impact éducatif, c'est vrai qu'il vient aussi par la durée. Donc sur 6-8 mois, on peut apprendre et tirer des choses qu'on ne peut pas tirer sur un mois en termes éducatifs, ça c'est sûr. Mais il faut par ailleurs pas commencer à 18 ans, puis il y a des choses qui s'apprennent dès l'âge de 10-11 ans.
Donc il y a une question d'âge aussi dans ce service universel. Quel est le bon âge? Jusqu'à quel âge? À quel moment dans ses études, d'après vous, quel est le
bon
moment?
Mon avis, c'est que ça va dépendre de ce qu'on veut faire. En gros, si on veut faire un vrai étape de service national civique au militaire dans le parcours des jeunes de 6-12 mois, ça sera forcément, je sais pas, entre 18 et 25 ans. On va pas obliger les mineurs, c'est impossible. Donc, ce sera 18 à 25 ans, comme l'ancien service national. Si on dit non, on ne veut pas imposer 6 mois à tout le monde, on veut un temps obligatoire plus court. Moi, mon avis, c'est qu'il faut le faire avant 16 ans. Avant la fin de la scolarité obligatoire, on a les jeunes. Mais c'est pas un temps de service, c'est un temps d'éducation. Donc c'est renforcer l'éducation à la défense, à la citoyenneté, à l'école, avec des heures de service. Comme ça se fait dans certains pays, on a 100 heures de bénévolat, entre guillemets, obligatoire pour avoir son bac. Il y a plein de pays qui font ça. Ça, par exemple, ça pourrait être pas complètement stupide, pourquoi pas, de dire y a dans l'éducation citoyenne, on renforce les temps formels, mais il y a aussi un temps de pratique. Et ça se passe à l'école. Et l'école étant obligatoire en France, ça date d'aujourd'hui jusqu'à 16 ans, c'est là où ce serait, à mon avis, le moins coûteux. Et après, on propose et on généralise le service civique. De toute manière, un service national sans généralisation du service civique, moi, je trouverais ça aberrant. Martin Hirsch le disait en petite introduction des années 2010, on commence avec 10%. Aujourd'hui, on en est à 20% d'une classe d'âge en service civique. 20% d'une classe d'âge. 150 000 jeunes l'année dernière sur la classe d'âge de 600-700 000 jeunes. Il y a 67% des jeunes qui sont déjà aujourd'hui, même sans qu'on leur impose de le faire, prêts à s'engager dans ce service civique-là. Ça voudrait dire déjà 350 000. On ne les a même pas à la place. Donc moi, je dis, montons en charge déjà ça. Pour éventuellement se dire, dans 5 ans, ce sera incontournable dans le parcours de tous les jeunes que de faire un service civique, mais un vrai service civique. Et est-ce qu'on a 8 mois pour rendre service au pays?
Aura-t-on le droit de ne pas vouloir le faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore dire aujourd'hui? Ne pas vouloir s'inscrire dans le collectif national, même quand on est un jeune, comme les gens qui se faisaient réformer du service militaire, pour le coup, c'est ma génération, et à l'époque, ça concernait pas mal de gens, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le service civique. Est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui que des jeunes n'aient pas envie de s'engager, n'aient pas envie de répondre à l'appel de la nation, parce qu'après tout, c'est aussi un droit qui veut répondre. Monique Dagnaud, vous connaissez bien la jeunesse en tant que sociologue.
En fait, Martin Hirsch a dit que le succès du service civique, il était dû au fait que c'était volontaire. Et donc, il mettait plutôt en avant le fait que, on pouvait justement ne pas l'effectuer et se mettre en dehors de cette obligation. J'aurais tendance à penser que ce soit une montée en charge ou une décision où tout le monde va le faire. C'est quand même bien de pouvoir donner l'idée qu'il faut le faire, qu'il y ait un caractère, qu'il y ait un caractère un peu plus qu'incitatif, un peu obligatoire, parce que je partage l'avis de madame, c'est-à-dire que c'est bien que les jeunes aient le sentiment qu'ils peuvent aussi, ils ont un peu le devoir de donner quelque chose d'eux-mêmes, peut-être du temps, à la société dans laquelle ils vivent et dont ils bénéficient. Donc, ma réflexion, ce serait plutôt d'essayer, peut-être pas obligatoire comme ça, mais le problème, c'est quand c'est pas obligatoire, ceux qui s'en extraient, ce sont ceux qui sont les plus privilégiés de la société. C'est-à-dire, c'est le cas de l'armée, comme c'était auparavant.
C'était un petit peu le cas du service militaire.
Le service militaire, vous aviez une grande partie de la jeunesse, celle qui était le plus éduquée, des milieux les plus favorisés, celle avec des diplômes, qui ne l'effectuait pas. Arriver à s'en extraire. Et alors là, véritablement, si on veut faire ce service national, je pense qu'il ne faut pas donner cette possibilité parce qu'on sait qui va l'utiliser. Et si on veut faire de la mixité sociale, il faut plutôt aller vers quelque chose qui soit, alors peut-être progressif, mais qui soit quand même obligatoire. Sinon, à mon avis, ça n'a pas trop de sens.
Donc, de l'obligation pour créer du sens, ça ne répond pas tout à fait à ma question.
Oui, Marie-Claire Lucane. Sur la mixité sociale, pour le coup, quand on veut, on peut, même sous une forme volontaire pour l'instant. J'expérimente le fait d'avoir des jeunes dans une mixité sociale totale parce qu'on va les chercher. Parce qu'on va les chercher et on se fixe l'objectif. On pourrait très bien, par exemple, dans le cadre de ce service national universitaire, dire à partir d'aujourd'hui, le service civique, c'est forcément collectif avec de la mixité, avec des bacs moins, des bacs plus dans vos équipes. Et on refuse que l'hôpital ou je sais pas quoi, ou l'association prenne que le bac
plus 4. De répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas réussi à faire avec l'école, même dans les quartiers mixtes socialement, on a beaucoup de peine aujourd'hui à maintenir, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de volonté politique, on va l'imposer aux jeunes. Et là, par volonté politique aussi, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dissonance? Vincent Desportes, vous vouliez ajouter quelque chose et j'ai encore une question pour vous.
Oui, vous êtes très bien. Alors, il y aura toujours des réfractaires et il y en aura d'autant plus qu'on l'imposera. Donc moi, je crois beaucoup à ce que vous avez dit, c'est que petit à petit, il faut faire en sorte que ce soit naturel d'y aller. Regardez le service militaire. Quand on ne le faisait pas dans un village, on n'était rien. Et donc les jeunes y allaient parce qu'il y avait une espèce de pression sociale. Donc petit à petit, amener à comprendre, à faire comprendre à la jeunesse qu'elle doit se lancer dans ces actions-là, dans ces actions sociales, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Je crois aussi, on parlait tout à l'heure de l'élite. Et c'est vrai qu'à la fin du service militaire, national militaire, les élites échappaient. Et je crois qu'il faut là imposer. On ne devrait pas pouvoir être haut fonctionnaire en France ou fonctionnaire d'un certain rang si on n'est pas passé par ce genre de service. Et là, peut-être militaire d'ailleurs. Enfin, par ce genre de service à un moment donné. Donc il faut le rendre de plus en plus incitatif et probablement obligatoire pour ceux qui auront à exercer des responsabilités dans la nation.
Et je reviens à ma question précédente à laquelle vous avez dit vous-même n'avoir pas répondu sur la dimension éducative de la formation militaire. Parfois, quelle est la compétence des armées à encadrer des jeunes de manière un peu plus scolaire? On sait que les premières journées de formation, enfin c'est pas vraiment la formation celle auquel on doit s'inscrire.
Oui, défense citoyenne.
Voilà, défense citoyenne.
Oui, ça n'est rien.
C'est déjà un peu de repérage de certaines difficultés. On sait aussi que l'armée, voilà, est capable à s'est montré capable de faire acquérir certaines compétences, connaissances, savoir à des jeunes quand parfois l'école avait échoué à faire cela.
Mais historiquement, l'armée a eu un rôle d'éducation extrêmement important. Hein, la Troisième République, la France, le français répandu partout, c'est le fruit du travail de l'instituteur et de l'officier, historiquement, sous la Troisième République. Et on se rappelle cet article du général Lyautey, qui devait être capitaine ou commandant à cette époque-là, dans la Revue des Deux Mondes en 1891,
je crois. Oui, vous en rappelez un peu mieux que moi.
Voilà. Non, le rôle social de l'officier, c'est un ouvrage qu'on connaît, et il parle, lui, de la mission éducative de l'officier. Alors, on en n'est pas exactement là, mais ce qui est sûr, c'est qu'un soldat qui rentre aujourd'hui, les gens qui viennent s'engager dans les armées sont pas les gens les plus diplômés aujourd'hui. Au contraire, ce sont un peu des rejetés de la nation, du système éducatif. Ce sont des hommes parfaitement ordinaires. Et nous leur faisons faire des choses parfaitement extraordinaires. Et donc, évidemment, il y a une dimension éducative très forte. Pourquoi ? Parce que la formation est quelque chose de très important dans les armées. Un militaire passe un tiers de sa vie à être formé, il passe un tiers de sa vie à former les autres. Donc l'éducation est dans la nature même du métier militaire. Et donc il serait normal que les armées participent à cette grande mission. Le point, c'est qu'ils ne doivent pas la porter.
Il y a une recherche d'extraordinaire dans le parcours des jeunes. Alors, ça peut être parfois dans l'armée. Vincent Desportes, c'est vous qui avez utilisé le mot extraordinaire et je rebondis. Extraordinaire, ça peut être une année de césure. Dans les études, c'est de plus en plus populaire dans le parcours des jeunes. C'est même très courant dans d'autres pays comme le Danemark en Europe. Pays dont on dit que la jeunesse est particulièrement heureuse. Peut-être aussi parce que c'est un pays assez prospère. Monique Dagneau, est-ce que la jeunesse, est en recherche d'expériences extraordinaires et que c'est peut-être une forme de réponse là avec ce service dont on ne dit pas s'il doit être obligatoire.
Alors, la jeunesse, elle est absolument en recherche d'expérience. Alors, je ne sais pas si le terme extraordinaire est approprié, mais d'expérience, de connaître d'autres choses que le milieu dans lequel ils vivent, un autre métier, d'être en contact avec des jeunes qui ne soient pas justement dans leur proximité sociale ou culturelle. Il y a une appétence, il y a une ouverture. Vous prenez par exemple culturellement, les jeunes sont beaucoup plus ouverts qu'on l'imagine. Quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils préfèrent comme culture, comme bien culturel, c'est souvent des biens. Ils voient des séries américaines, ils s'intéressent au manga, ils ont une ouverture culturelle aujourd'hui, grâce aux industries culturelles, très large. Il y a beaucoup de jeunes, alors plutôt, je dirais, des jeunes très diplômés, qui demandent ou souhaitent prendre une année sabbatique. Ça, c'est par exemple quelque chose qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, vous parlez avec des jeunes de 20 ans qui, souvent quand ils font des études, ils vous disent « mais peut-être avant d'entrer dans la vie professionnelle, si je peux, je prendrai une année sabbatique ». Et de plus en plus, des jeunes le font. Donc au total, je ne trouverais pas du tout extraordinaire qu'on leur demande pendant un an ou 6 mois, disons, de faire quelque chose qui les sorte de leur itinéraire bien tracé. Parce qu'en France, les jeunes ont un itinéraire bien tracé, a priori d'ailleurs déterminé par l'école. C'est l'école qui, d'une certaine façon, classe les jeunes pour le reste de leur destin. Si vous leur demandez à, disons, 18-20 ans ou 18-25 ans, de passer un certain nombre de mois à faire autre chose, à expérimenter, et notamment avec une visée civique, pas militaire, j'y crois pas trop à ça, mais une visée civique, je suis absolument sûre que vous aurez du répondant chez la plupart des jeunes. C'est dans leur, disons, c'est inscrit dans leur ADN aujourd'hui.
On a déjà la preuve, hein. 67%. Je dis, on a déjà la preuve, les derniers sondages, 67% des jeunes prêts à s'engager 6-12 mois en service civique, c'est déjà une preuve qu'il y a du répondant. 150 000 jeunes l'année dernière, nous on a 3 ou 4 jeunes pour une place. Hein.
Et puis je voudrais aussi m'arrêter sur la dimension symbolique dans le parcours de vie d'un service universel, national. Les sociologues Stéphane Beau et Gérard Mauger c'était il y a quelques mois, ont consacré un livre à la jeunesse populaire et ses difficultés. Alors, c'est un livre très collectif, il y a beaucoup de sociologues, je ne peux pas tous les citer qui ont participé, parle d'allongement de la jeunesse. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un moment un peu pivot pour dire... on reste peut-être dans la jeunesse, mais on sort d'une forme d'enfance. Est-ce que finalement cette fonction remplissait pour les garçons, plutôt quand même seulement, le service militaire n'a pas vraiment été remplacé, qu'on a besoin d'un moment peut-être comme les LEBAC, pour lequel on aime bien parler de symbole, après on adhère ou non. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau symbole républicain, d'un passage, d'un rite, de quelque chose de collectif qui prenne une dimension
plus qu'un symbole, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on quitte le cocon de la famille où on est au chaud et tout d'un coup, on se retrouve confronté à la volonté des autres et dans des conditions difficiles. C'est-à-dire qu'on apprend à un moment à ne plus s'écouter et aller vers les autres. Et ça, c'était le grand service que rendait le service militaire. Donc ça n'est pas qu'un symbole, c'est une réalité. Il y avait un avant et un après, et bien ça n'existe plus, c'est vrai.
Monique Dagneau.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est pas, ils font des études ou pas, puis ensuite ils rentrent dans un travail, et puis ensuite ils construisent une famille. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la post-adolescence, que la société reconnaît tout à fait à l'ensemble des jeunes, quelle que soit
jusqu'à
la catégorie, 30 jusqu'à 30 ans,
oui.
Toutes les cartes peuvent être rebattues, on peut développer des expériences et c'est quelque chose, alors c'est pas organisé comme au Danemark, mais c'est quelque chose que la société reconnaît volontiers. On ne demande pas à un jeune d'être vraiment dans une posture d'adulte dès un certain âge, pas du tout. Ça s'étale sur beaucoup d'années et c'est un des aspects, disons, positifs de nos sociétés développées, de nos sociétés plus riches. On donne aux jeunes le temps de se trouver. Et bien pour se trouver, ils pourraient justement consacrer un certain nombre d'années, faire un travail qui ne soit pas vraiment professionnel, mais plutôt d'ordre civique.
Vous avez raison, on réfléchit encore à la durée, mais ça m'étonnerait qu'on parle de plusieurs années. Merci beaucoup à tous les trois. On passe rapidement à la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses. Et c'est l'écrivaine Marilyn Débiol qui passe aux aveux au micro de Sophie Bobert. Si elle fut une excellente élève, cela n'a pas toujours été si facile.
souvent il est de bon ton de dire qu'on a été un cancre, c'est plus sympa, mais moi vraiment pas alors. Et j'avais très très envie d'aller à l'école, avant même de savoir ce que c'était. On parle toujours de la souffrance du cancre, mais le bon élève, c'est pas terrible non plus. Parce que le bon élève, il ne doit jamais déchoir. Et ça, c'est vraiment terrible. Alors moi, j'ai été très très bon élève, primaire et collège. Ensuite, je suis devenue un voyou fini. Mais tout le temps du collège, par exemple, mais c'était terrible. Alors bien sûr, à l'époque, on n'avait pas de notes, on avait des lettres, comme si c'était différent. A plus, vous voyez, A moins. Bon alors, un A moins, par exemple, me mettait dans des affres, dans des états, mais et ça rend très solitaire, en effet. Vraiment, je crois que c'est... On le dit pas assez, parce que bon, c'est des malheurs de riches, on va dire. Hein. Mais quand même, c'est pas commode d'être tête de classe, comme on dit.
Mais c'était vos parents qui vous mettaient la pression, ou est-ce que c'était vous, toute seule, hein?
C'était pas forcément dit. Bon, mes parents étaient très... Singulièrement, ma mère qui venait. Donc, ma mère n'avait pas... Ses parents n'avaient pas été à l'école. Elle-même, son père, n'avait pas voulu qu'elle aille au collège. Au motif qu'il voulait qu'elle fasse les marchés avec elle. Hein. Donc, vous voyez, il y avait quand même une sorte de revanche... De réparation.
Et est-ce durant ces années-là, au collège, que vous avez senti naître en vous le désir d'être un écrivain?
Alors moi, j'ai toujours écrit, oui. J'ai toujours écrit des petites histoires depuis que je sais écrire. Alors je copiais, je faisais des pastiches, hein, des trucs que je lisais. Alors, c'est compliqué parce que j'étais seule, mais le moment où j'étais pas seule, c'est que je racontais des histoires à mes camarades. J'inventais des fictions complètement dingues. Et vous connaissez le succès de l'autofiction. En fait, pour que mes camarades m'écoutent, ils me demandaient si c'était vrai. Et j'étais obligée de leur dire oui. Jusqu'au jour où j'ai inventé un crack tellement énorme qu'ils m'ont demandé de jurer sur la tête de Dieu que c'était vrai, ce que j'ai fait. Et toute la nuit, j'ai eu des...
Des remords.
Même plus que des remords. Je me suis dit, mais c'est horrible d'avoir fait ça, j'avais des suées, quoi. Et donc, le lendemain, j'ai dû dire, non, c'était pas vrai. Ah, vous voyez,
dur. Statut de l'auteur. Face à son public.
Oui, c'est ça. Ah, oui, il faut dire une chose aussi, et ça c'est un truc qui m'a semblé très révélateur de la position de l'écrivain, c'est que à l'école, j'étais bon élève, d'accord, mais je ne suivais jamais la lecture. Parce que je savais déjà lire, alors on lisait les uns à la suite des autres, c'était d'un ennui mortel. Je m'ennuyais comme un rat, donc j'écrivais mes petites histoires pendant ce temps. Et au bout de trois fois que l'on ne suivait pas, on allait au piqué, à la récréation. Donc moi, j'étais tout le temps au piqué. Alors, ça, c'est marrant parce que pendant que j'étais au piqué, dans la cour qui était très grande, j'étais près d'une allée de cyprès, je me souviens très bien, l'odeur des cyprès et tout ça. Et je voyais la maîtresse avec ses collègues qui montraient ce que j'avais écrit. Donc, vous voyez, j'étais à la fois punie, mais à la fois mise en valeur par le fait qu'ils disaient « Ah, tu as vu ?»
Mais c'est un statut idéal d'adolescent, ça. C'est-à-dire à la fois rebelle face à l'autorité, mais à la fois mis en valeur.
Moi, je pense en tout cas que c'est la position de l'écrivain. Au piqué, dans son bureau, dans sa chambre, mais qui va être lu par d'autres. Et donc, tout ça était à la fois une punition, comment dire, une punition qui finissait par être délicieuse, quoi. La punition délicieuse, pas mal pour, au fond, pour qualifier l'écrivain.
Et je profite de cette leçon de choses pour vous conseiller de lire Marie-Line Débiol, son dernier ouvrage, Rupture, apparu en janvier aux éditions Flammarion. Merci à toutes celles qui ont œuvré pour cette émission LISCOM et Anne-Laure Chanel à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la prise de son, attaché d'émission Marie Dalquier. N'oubliez pas que vous retrouvez Rue des Écoles dimanche prochain à 17h15 et quand bon vous semble grâce au podcast. Bonne soirée à tous sur France Culture.